et que la Turquie possède déjà. Tayyip Erdogan n'a d'ailleurs pas cité que la Russie, mais aussi la France et le Royaume-Uni comme possibles fournisseurs. Le président américain Joe Biden s'est dit favorable à la livraison de F-16 à la Turquie. Mais les élus du Congrès exigent qu'elle...
Radio G. 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur. Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Bonjour. Nous vous proposons aujourd'hui de rencontrer l'auteur Anne Dufour-Mantel par des extraits de Puissance de la douceur, paru en 2013 et édité chez Payot dans la collection de Rivage Poche. Nous empruntons des indications biographiques à Jean-Marc Zaorski. Née à Paris en 1964, Anne Dufour-Mantel a trouvé la mort le 21 juillet sur la plage de Pampelonne, près de Ramatuelle, dans le Var, dans des circonstances tragiques, en portant secours au fils d'une de ses amies, âgée de 10 ans, qui était en train de se noyer. Au cours de ce sauvetage, elle a succombé à un arrêt cardiaque. Anne Dufour-Mantel avait 53 ans. Philosophe, elle était la fille d'une psychanalyste d'obédience jungienne et avait soutenu sa thèse de philosophie en 1994, sous la direction de Jean-François Marquet, avec pour thème « La vocation prophétique de la philosophie ». Elle en fera un livre édité au CERF. Amie de Jacques et d'Avital Ronel, elle mêlait avec bonheur ses activités de philosophe et de psychanalyste, tout en étant à la fois éditrice, d'abord chez Kalman Levy, puis chez Stock, et chroniqueuse au journal Libération. La compagne de l'écrivain Frédéric Boyer était aussi diplômée de l'université de Brown à Providence, aux États-Unis, et enseignante à New York. Dans la préface écrite par Catherine Malabou, ces phrases traduisent exactement l'impression que nous voudrions vous communiquer par notre lecture. Il est très rare qu'un livre de philosophie prenne la forme de ce dont il parle. Puissance de la douceur réussit l'incroyable exploit d'être un livre doux, d'être un livre sur la douceur, écrit par la douceur elle-même. Un livre où la douceur est à la fois sujet et objet.
La douceur est une énigme. Incluse dans un double mouvement d'accueil et de don, elle apparaît à la lisière des passages que naissance et mort signent. parce qu'elle a ses degrés d'intensité, qu'elle est une force symbolique et qu'elle a un pouvoir de transformation sur les choses et les êtres, elle est une puissance. Une personne, une pierre, une pensée, un geste, une couleur peuvent faire preuve de douceur. Comment en approcher la singularité ? Son approche est risquée pour qui désire la cerner. À bien des égards, elle a la noblesse farouche d'une bête sauvage. Il semble qu'il en aille ainsi de quelques autres espèces rares. L'innocence, le courage, l'émerveillement, la vulnérabilité, en marge des concepts arraisonnés par la grande histoire de la pensée, sont eux aussi regardés d'un œil inquiet par la philosophie. Ils obligent à une souplesse inédite, car ils ne se laissent pas définir sous l'angle de la seule valeur, ni contenir dans la description de leur phénomène. La douceur, violence, car elle n'offre aucune prise possible au pouvoir.
Transformation secrète, prodiguant la vie, reliée à ce que les anciens appelaient justement puissance. Sans elle, que la vie s'augmente dans son devenir. Je crois que la puissance de métamorphose de la vie elle-même se soutient dans la douceur. Quand l'embryon devient un nouveau-né, quand la chrysalide laisse éclore le papillon, quand une simple pierre devient la stèle d'un espace sacré dans les jardins de Kyoto, il y a au minimum la douceur. En écoutant ceux qui viennent me confier leur détresse, je l'ai entendu traverser chaque expérience vécue. J'ai éprouvé sa force de résistance et sa magie intangible dans le secret de ce qu'on appelle le transfert. Mais sans doute, sensible à toute chose. La douceur. Que la douceur incarnerait et désincarnerait en même temps. On peut imaginer que la brutalité se dissout au contact de l'eau utérine qui protège le bébé, mais pas toujours. La douceur n'est pas au seul genre humain. Elle est une qualité dont les registres infinis vont au-delà du règne du vivant. La douceur en nous, dès l'origine. On croit la saisir à la source. Enfant abandonné au sommeil. Goût de sucre du sein maternel, voix qui berce, psalmodie, caresse. On la devine ailleurs dans le mouvement de l'animal, la montée de l'obscurité en été, la trêve d'un combat, la rencontre d'un regard. On la reconnaît au chevet des mourants dans leurs regards qui traversent leur agonie sans fièvre. Mais là encore, elle ne se laisse pas saisir. Elle vient apaiser la fièvre des amants et opposer au bourreau un dernier souffle contre lequel il ne peut rien.
Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux, on va bien jouer ensemble, on est là tous les deux, seuls. Ce soir elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Elle écrira demain, peut-être, nous aurons une lettre. Il pleut sur le jardin. Je vais faire du feu, je n'ai pas de chagrin. On est là tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois, il pleut dans ma mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires. mais il fait un peu froid ce soir. Une histoire de gens qui s'aiment, une histoire de gens qui s'aiment. Tu vas voir, ne t'en va pas, ne me laisse pas. Je ne sais plus faire du feu, mon enfant, mon amour. Je ne peux plus grand-chose, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on est là tous les deux, perdus parmi les choses, dans cette grande chambre, seul. On va jouer à la guerre et tu t'endormiras. Ce soir il ne sera pas là, je ne sais plus, je ne sais pas. Je n'aime pas l'hiver, il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien à faire qu'à jouer tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires, il était une fois. Je n'ai plus de mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires, mais il est un peu tard ce soir. L'histoire de gens qui s'aimèrent et qui jouèrent à la guerre. Écoute-moi, elle n'est plus là. Non, ne pleure pas.
L'étude des premiers attachements montre que le corps du bébé, comme celui de l'animal, garde en mémoire toutes les intensités et toutes les carences qui leur auront été prodiguées. Toute atteinte grave mettra en danger, maintenant ou plus tard, leur capacité de survie. Des philosophes outre-Atlantique ont nommé cette pensée le care, car il leur permettait de parler de la vulnérabilité des êtres de manière inédite. Faire les gestes appropriés pour endiguer la maladie, refermer la plaie, apaiser la douleur. Le soin est associé depuis le début de l'humanité à la douceur. Il exprime l'intention du bien, de ce qui est donné par-delà l'acte médical ou la substance analgésique. Il y a un art qui illustre autrement l'intelligence inhérente à la douceur, l'art équestre. Il suppose l'entente de l'homme et de l'animal à un haut degré de raffinement et de complicité. Il s'agit pour l'un de comprendre, de deviner, de tolérer l'autre, au point d'en être accepté. Le cheval peut être guidé, dressé, bridé, cravaché. Il ne s'accordera au cavalier que si celui-ci sait trouver, avec douceur, la légèreté de la main et le mouvement dont il s'ajustera à la foulée de l'animal. Il y a dans l'équitation un art de la douceur comparable à nul autre. Cette maîtrise a une histoire aussi longue que celle de l'apprivoisement du cheval. Elle a nécessité des siècles pour trouver ses règles, sa valeur, son éthique. Et cette entente n'est pas donnée une fois pour toutes. Elle se rejoue à chaque fois.
L'occasion d'une fête sensible. Le tact et le tactile, le toucher, le goût, les parfums, les sons en ouvrent l'accès. Si elle peut inclure de la violence dans la fragilité, être belle, érotique, entrer dans une danse sacrée avec le corps de l'autre désiré, elle n'est pas sans secret, c'est-à-dire sans liberté jusqu'au dernier instant. La douceur a de multiples affinités avec la lumière, son raisonnement, son intensité, sa diffusion, ses métamorphoses, sa nuit. S'il fallait la figurer dans l'espace, elle serait une courbe, en mouvement, même infime. La musique en serait la traduction la plus immédiate, peut-être avec le toucher. Le contraste mélodique s'accorde au rythme, à la voix et à l'instrument. L'andante du 21e et celui du 24e concerto de Mozart ne sont pas seulement parfaits, ils tressent une cathédrale de sons, un parfait équilibre. Douceur des ciels d'été, des atmosphères, des nuages. Délicatesse de ses bords, non refermés, intérieurs, extérieurs, liquides et éthériques. Dans la nuit, le halo et sa limite, leur précision parfois sur scène, la découpe d'un corps nu, le pan coupé d'une alcôve, la flamme haute, tous ces rebords de lumière que l'obscurité délimite et en un sens protège. L'harmonie, la manière dont un orchestre s'accorde ou dont deux Aplache et Rothko vont dialoguer le long d'un horizon rouge. C'est la proportion d'un visage.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre. Les riches plafonds, les miroirs.
La force symbolique de la douceur est une autorité. Gandhi est l'une des figures les plus emblématiques de la non-violence, car il a été à la fois un grand résistant, un guerrier en un sens, et un maître spirituel. Il est intéressant et surprenant de se pencher sur les maîtres spirituels qui l'ont inspiré, car trois d'entre eux, et non des moindres, sont des occidentaux. Le premier est Tolstoï. La doctrine spirituelle de Tolstoï se résumait ainsi. Un chrétien lui-même sans résistance plutôt que d'attaquer ou faire usage de la violence. Par son attitude à l'égard du mal, il se libère et il aide le monde à se libérer de toute autorité extérieure. Il prêche de servir des gouvernements mauvais ou de leur obéir. Gandhi démontra qu'il avait retenu la leçon quand, aux dépens du général Smuts, il enjoignit les Indiens de défier son autorité par la désobéissance civile. Gandhi, sans jamais risquer celle de l'adversaire, en faisant confiance à la force symbolique. Les négateurs de celle-ci mettent sa douceur en relief. Elle apparaît par contraste avec la violence qu'elle suscite.
Peut-on concevoir la bonté, la joie, le don, le calme, sans leur contraire? La douceur aurait-elle une quelconque valeur si elle n'incluait pas la brutalité? La pensée chinoise est celle qui a sans doute le plus essentiellement exprimé cette idée, en montrant par exemple que la graphie, qui représente le yin et le yang, inscrit en chacun d'eux un point minuscule signifiant l'inclusion nécessaire du principe adverse. Si la douceur est un lien d'une constance qui va bien au-delà des circonstances et des événements et qui s'adresse à l'être, on pourrait définir la brutalité comme ce qui vient menacer ce lien. S'il y a douceur, c'est-à-dire aussi tendresse et protection, il faut exercer une violence pour en finir. Or, sans la possibilité pour l'individu de passer à son contraire, la douceur reste-t-elle un choix? Ne verse-t-elle pas le devoir sacrificiel ou l'infirmité psychologique?
Aimer sont des actes puissants, dionysiaques, expression d'une vie authentique. La douceur implique le corps, c'est-à-dire l'idée et la sensibilité d'un corps que la douceur aurait éduqué, élevé, anobli, sa puissance distillée par les sens.
La douceur ne se possède pas. On lui fait hospitalité. Elle était là, aussi discrète et nécessaire et vitale qu'un battement de cœur. Sa puissance va de la volupté à la plus légère pression de la main. Elle est pensée quand elle touche et touchée quand elle est intelligence.
Aucun endroit du corps. Elle est venue depuis la naissance, là où l'on respire. Elle accompagne les rêves et rejoint leur révolte secrète. Elle ne se révèle jamais qu'après coup, dans la sensation qu'elle laisse au sommeil.
Aucun événement de ce monde ne lui est étranger, car elle porte la responsabilité du vivant. Sans douceur, humain, aucune traduction possible autre que violente.
La douceur ressemble à un vœu d'enfant, à cette promesse chuchotée. Je serai toujours près de toi.
Non révélée, comme les ailes des papillons enroulées dans leur chrysalide, la douceur habite toute pensée dans le processus de son devenir sensoriel.
Sa puissance se distille par les sens. Érotique, elle l'est de toutes les manières possibles, parce que l'intention qui la contient est un apprivoisement de la sauvagerie des humeurs et du corps, qui admet aussi le négatif. L'ombre est l'état du corps en désir. Pas de douceur sans désir qui ne transmute en caresse, en jeu et ne se recourbe pas en possession. Dessous, tapis. Sous chaque chose, regardez, juste la ligne en dessous. C'est là, sous chaque chose touchée, chaque mot prononcé, chaque geste commencé, comme la ligne mélodique qui accompagne une ligne chantée.
La douceur s'éprouve. Comme le rêve, elle modifie substantiellement ce qu'elle affecte. Elle ne laisse pas indemne. La douceur, c'est du plaisir. L'abandon dans la certitude de l'amour et de l'érotisme, quand jouer et toucher et prendre et se donner et imaginer s'accordent. La douceur, l'érotisme, elle peut en rejoindre les contrées les plus sauvages, libres. Sans elle, c'est d'ombre et de lumière, plus d'approche, d'abandon, de jeu, d'invention et de mirage.
Soleil qui s'enroule sur ta main et mer et la plage qui attend. C'est l'oiseau qui a chanté sur la branche du figuier. Le premier chagrin du jour, c'est la porte qui se ferme, la voiture qui s'en va, le silence qui s'installe. Mais bien vite tu reviens et ma vie reprend son cours. Le dernier bonheur du jour, c'est la lampe qui s'éteint.
La douceur est un rapport au temps qui trouve dans la pulsation même du présent la sensation d'un futur et d'un passé réconcilié, c'est-à-dire d'un temps non divisé. Ce temps réconcilié permet la vie. La révolution intime de la douceur est en puissance la réalisation d'une liberté inactuelle qui nous sort des champs de la répétition et de la mélancolie. De l'animalité, elle garde le goût et le toucher, la présence et la grâce. Et dans l'enfance, l'essentielle présence, dans ce qu'elle irradie. La douceur dans la peur. La douceur allège la peau, disparaît dans la texture même des choses, de la lumière, du toucher, de l'eau. Elle règne en nous par de minuscules brisures du temps, donne de l'espace, enlève leur poids aux ombres. Tête renversée, monde à l'envers, pur enchantement, douceur du va-et-vient. Comme le poème est un rythme intérieur au rythme de la langue, un temps contre temps, une intonation seconde, l'élément de non-familiarité dans le familier de la langue. Les vers de Baudelaire ou ceux de Rimbaud ont une douceur particulière, car la sauvagerie ou l'âpreté du réel qu'ils exposent est délivrée dans une langue neuve, jaillissante, que rien n'apprivoise, pas même après 534 lectures, et ce caractère spontané et vertigineux des images a, avec la douceur, une commune et secrète des mesures. La douceur coule le monde ensemble, comme le poème qui rabat les anses déchirées du réel, sans pour autant les réconcilier.
Terrain en pente, les rosiers nus dans la lumière d'hiver. Un rouge-gorge avait fourni dans le massif. Il apparaît chaque jour, à la même heure ou à peu près. Il ne faut pas donner trop d'attention aux choses, seulement les considérer dans leur vital déséquilibre quelquefois. Alors, en douceur, elle délivre un secret. La nature est noire. Et pourtant, elle est un absolu présent, translucide à tout ce qui n'est pas réfléchi par elle. Lumière, nuit, froid, neige, plage en hiver, sable froid, vagues courtes, coupantes. Quatre filles jouent au volet en riant, leurs cheveux se soulèvent, toute leur vie lovée là au creux du corps, intacte. Elles ne le savent pas. Sable filé entre les doigts, petits morceaux de verre polis par la mer, usés, tièdes dans la main quand on les ramasse. Sable encore froid, à peine issu de la nuit, du temps ancien, comme ignorant la mort, enfoui, loin sous les pierres, la lumière, les voix enfantines disparues. Avec le soleil du soir.
Abricot, signe de la sensualité même, fétichisme d'enfant.
plus aucune ombre nulle part. Tournoyer à bras ouverts. Plus de haut ni de bas. Lamelle de lumière fine, écaillée. Un parfum, une seconde, petite porte du placard de la salle de bain laissée entr'ouverte par un enfant curieux. Flacon posé, renversé. Cannelle, ambre et quelque chose d'autre. Personne indemne de cette mémoire-là. Tu penses à toutes les vies possibles qu'une odeur soudain rend présente. Ronde, tendre. Elle rend aux choses le contour, puisqu'elle n'existe que de cette densité sans couleur. Tout un parfum évoquait une peau, une atmosphère, pour délier dans la mémoire ce qui ne nous appartient pas et nous traverse. La douceur rapport émerveillé à la pensée.
Une sensation d'apesanteur que partagent avec elle les cosmonautes, les comètes. La douceur a l'air la peau d'être peau. Elle ne résonne pas, elle se fond, s'enroule autour des lignes du paysage, ne mouille rien, donne de l'espace aux choses, enlève leur poids aux ombres. La douceur à l'intérieur des voies d'exil. Elle trouve là un écho à son passage, son insaisissable légèreté dans la tessiture d'une voix. Comme si on avait les sens à vif. Lorsqu'il est déserté par la douceur.
Ciel où la douceur manque, désespérément clair, sans eau, de ces états qui ressemblent à ces ciels, quand on s'est exilé intérieurement, que rien ne semble pouvoir vous atteindre. Elle irradie au cœur de l'ouragan, témoin des forces déchaînées, mais elle-même intouchée. Le calme suprême. Tu joues avec une fille qui déplace les santons de la crèche par terre, comme des cavaliers sur un échiquier invisible. Le mouton, la chèvre, la lingère, le roi mage, autant de constellations à notre ciel intime. Ce temps donné à l'enfant est infiniment précieux. Il crée la pensée et la terre au-dedans de soi, cette ombre portée de notre attente. Il la dépose quelque part, à l'abri. La douceur de la main de l'enfant pour attraper la colombe de stuc blanc et bleu, qui la pose au bord du ruban. Le ruban, c'est la rivière. Il y a un pont en céramique qui la surplombe et une bergère immobile, le traversant, et la déplace un peu pour voir. Ce temps-là, rien. Pour l'événement pur d'être ensemble.
Douceur, maladie, et de la convalescence, du temps qui s'étire infiniment, sans bord, avec l'irréalité que donne la fièvre. Les contours du réel s'estompent, restent en nous comme un dépôt très léger du monde. En soi, pure sensation d'existence.
Pierre rentrera, tiens, il faut que je lui dise que le toit de la remise a fui. Il faut qu'il rentre du bois car il commence à faire froid. Ici,
c'est beau cette pénombre, la sienne, la feuille, l'ombre qui se glisse jusqu'à moi.
Maintenant à poursuivre cette lecture. Cette émission a été réalisée par Monique et Anne. Claude Michel en a fait le montage. Vous avez entendu, dans l'ordre de l'émission, les musiques suivantes. Duke Ellington, Caravane. Léo Ferré, L'invitation au voyage, de Charles Baudelaire. Ravi Shankar et son sitar indien. Françoise Hardy, Le premier bonheur du jour. Et enfin Barbara, Pierre. Au revoir, auditeurs.
Chers... Si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Radio G, www.radio-g.fr.